Colline Pavot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la recherche ESG chez La Financière de l'Échiquier. On va parler avec vous de gouvernance aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de sujets dans l'actualité. On a parlé des actionnaires activistes notamment, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de recherche ESG et de ce critère de gouvernance? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot gouvernance d'entreprise pour vous?
Tout à fait. Alors déjà, pour rappeler, les critères ESG, c'est les critères qu'on dit environnementaux, sociaux et de gouvernance, et c'est les critères qu'on analyse quand on veut sélectionner une entreprise pour lui faire une place dans un fonds ISR. Et donc nous, à la Financière de l'Échiquier, on accorde beaucoup d'importance aux critères de gouvernance parce qu'on considère que tout commence là. Si on a à la tête d'une entreprise une équipe dirigeante qui est convaincue que le développement durable, c'est quelque chose de stratégique pour l'entreprise, alors on pourra voir naître au sein de cette entreprise des politiques environnementales et sociales qui vont être créatrices de valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Alors, peut-être un peu plus concrètement, qu'est-ce qu'on regarde quand on analyse la gouvernance de l'entreprise? On va regarder qui est le directeur général de cette entreprise, à quel point il incarne ses enjeux de durabilité, sa vision, son charisme, son track record, sa capacité managériale. On va regarder de quelle façon il est rémunéré. Est-ce qu'on a un réel alignement d'intérêts entre mes intérêts, moi, investisseur responsable, et ceux qui se reflètent dans les objectifs qui sont au sein de son schéma de rémunération? On va regarder par qui il est entouré, ce comité exécutif, de qui il est composé. Est-ce qu'il y a une bonne alchimie entre le directeur général et les membres de son comité exécutif? On va également, et ça c'est un élément très important, analyser les contre-pouvoirs au sein de l'entreprise. Donc on va analyser la composition du conseil, qui sont les administrateurs au sein de ce conseil, quels sont leurs profils, leurs expériences, est-ce qu'ils sont indépendants ou non, pour juger de l'équilibre des pouvoirs au sein de l'entreprise entre les exécutifs et justement les représentants des actionnaires que sont les administrateurs. Et ensuite on va regarder un certain nombre d'autres critères, mais ça c'est vraiment le cœur de notre analyse.
Alors justement, Cour, si on regarde par exemple alors les grandes entreprises, pour commencer par elles, on a vu une évolution de la gouvernance avec notamment une séparation des pouvoirs entre le PDG et le directeur général. Ça n'a pas été facile. On a vu récemment pour Danone des conséquences concrètes. Est-ce que cette version-là, c'est pas une version un peu anglo-saxonne finalement de séparation des pouvoirs? Est-ce qu'il y a une vision française de l'ESG, si on peut dire?
Alors, en effet, le statut de président directeur général, c'est un statut qui est très commun en France. Nous, à la Financière de l'Échiquier, on n'est pas pour ou contre ce statut-là. Il est certain que quand on a un cumul des fonctions, on a une limitation des contre-pouvoirs, mais dans certaines entreprises, cet équilibre-là fonctionne. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont mis en place pour garantir ces contre-pouvoirs malgré ce double statut. Ça peut être avec des administrateurs référents, ça peut être avec une majorité d'indépendants, ça peut être avec des mécanismes au sein du conseil d'administration qui permettent que les décisions soient prises sans la présence potentiellement du président. C'est sur l'indépendance des comités. Donc, pour nous, on ne se dit pas PDG, c'est mauvais, quand les deux sont séparés, c'est vraiment le Graal. On n'a pas cette vision-là, une analyse beaucoup plus fine et qualitative, et on pense que c'est vraiment au cas par cas. Il y a des entreprises dans lesquelles on a des cumuls des pouvoirs qui fonctionnent très bien, et d'autres dans lesquelles ça ne fonctionne pas, et dans ce cas-là, il faut qu'on puisse y apporter des réponses, et la séparation des postes de directeur général et de président peut être une bonne solution.
On a vu, donc on parlait en introduction des actionnaires activistes, vous diriez justement qu'ils sont peut-être un peu plus sensibles à ces sujets-là, on l'a vu clairement sur le dossier Danone en disant il y a un sujet de leur point de vue à eux, ça veut dire qu'ils évoluent aussi et qui peut-être que c'était pas leur premier critère il y a quelques années et que maintenant ils regardent ça peut-être d'un peu plus près.
Oui, alors en effet, je pense que on avait un peu les activistes d'hier et les activistes d'aujourd'hui qui commencent un peu à changer de position. Les activistes d'hier qui étaient peut-être principalement intéressés par des profits financiers à court terme et des activistes qu'on voit émerger ces derniers temps qui ont d'autres préoccupations et pas seulement des préoccupations financières, qui ont conscience que il y a une alchimie à trouver entre ces éléments environnementaux, sociaux et de gouvernance et que vraiment les deux sont importants. Et donc aujourd'hui, en effet, le point commun en tous les cas entre ces deux profils d'activistes, c'est la gouvernance. Ils considèrent toujours que c'est dans la gouvernance qu'on va trouver ces leviers plus de rentabilité de l'entreprise, mais aussi de meilleure incarnation et de meilleure conduite de cette politique environnementale et sociale. Et c'est important de dire que Nous, on est convaincus que les deux éléments sont complémentaires. On ne peut pas avoir une stratégie d'entreprise responsable qui permette de mettre sous le tapis une défaillance d'un point de vue de la gestion de l'entreprise et donc peut-être des performances financières qui sont de moindre qualité et vice-versa. Il ne faut pas que le financier surpasse l'extra-financier. Il faut vraiment que les deux puissent marcher et avancer de front. Ça, c'est très important. Qui plus est, une politique d'entreprise responsable, on parle en ce moment beaucoup d'entreprises à mission, elle a besoin d'une rentabilité financière pour être pérenne dans la durée. Et donc ça, c'est vraiment important que de trouver un équilibre entre ces deux éléments. Et c'est le rôle justement des contre-pouvoirs dans l'entreprise, c'est d'être capable, par un dialogue entre les exécutifs et le conseil, de trouver cet équilibre entre ces dimensions financières et non financières.
Alors, est-ce que effectivement cette gestion ISR, ESG, selon effectivement ce qu'on préfère, répond aux attentes d'aujourd'hui? On voit bien qu'il y a des débats entre on va dire, pour simplifier les choses, du capitalisme financier et du capitalisme responsable. Et il y avait plutôt une tendance à dire finalement ces deux-là sont irréconciliables. Quand on regarde effectivement les différents critères qu'on a dans ce type de gestion, bon, elle est encore minoritaire, mais elle progresse. Ça veut dire qu'on peut concilier tout à fait les deux, ce que vous avez rappelé sur la partie financière. Il faut quand même faire, une entreprise doit faire des résultats.
Exactement. Nous, on est convaincus l'investissement responsable, ça commence par, dans nos définitions à la financière de l'échiquier, c'est rechercher la performance en investissant dans des entreprises où la bonne gouvernance et la qualité de l'équipe dirigeante permettent de faire émerger des politiques environnementales et sociales, comme j'ai dit en introduction, qui sont créatrices de valeur pour toutes les parties prenantes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le capitalisme responsable est tout à fait possible. Et même quand on l'analyse un peu plus en détail, nous, on mène une analyse tous les ans sur les liens entre profil ESG des entreprises et performance financière. Et notre étude, qui vient de souffler sa 11e bougie, montre bien que, il y a financièrement un intérêt à investir dans les entreprises qui ont des meilleures notes ESG parce que c'est souvent celles-ci qui sont les plus performantes dans la durée parce qu'elles ont anticipé des évolutions réglementaires, elles ont été plus précautionneuses sur leur gestion de risques environnementaux et sociaux et donc elles sont moins soumises à des controverses, etc., etc.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir malgré tout encore des accidents d'entreprise, on se souvient tous de Volkswagen et de son Dieselgate, où il y avait des investisseurs qui pouvaient être dans cette société et qui n'avaient pas vu cet aspect-là, par exemple, certains l'avaient vu. Est-ce que ça peut encore arriver ou est-ce que vous dites aujourd'hui, les critères ou en tout cas l'analyse est suffisamment fine pour qu'on évite ce type d'accident?
Alors moi, je pense que ça peut toujours arriver. Les investisseurs responsables sont toujours très vigilants, mais en fonction de leur méthodologie d'analyse, ils vont accorder plus d'importance à peut-être la gouvernance comme nous ou à d'autres éléments. Sur le cas de Volkswagen, des investisseurs qui accordaient beaucoup d'importance à la gouvernance et n'étaient probablement pas investis dans la société parce qu'ils avaient senti que la gouvernance n'était pas à la hauteur, qu'il y avait une certaine opacité, un manque de contre-pouvoir. Et donc, in fine, ça ne nous permettait pas d'être vraiment à l'aise sur la politique environnementale et sociale qui était issue de là. Et puis d'autres qui peut-être avaient un accent plus sur l'environnement disaient, ils ont un super plan pour la voiture électrique et donc nous, on pense que c'est ça le critère principal à regarder dans cette entreprise et donc on y croit. Donc aujourd'hui, c'est toujours possible, on n'est jamais à l'abri des scandales. Plus l'analyse ESG sera approfondie, sera faite avec conviction, avec un vrai contact avec les entreprises, un challenge aussi de ces thématiques-là en discutant avec les dirigeants, plus on aura des visions exhaustives des risques et des opportunités que chaque entreprise, et on pourra être à l'abri de ces controverses. Mais pour être honnête, on n'est jamais vraiment à l'abri. On fait nos maximums pour éviter ce genre de scandale, mais on n'a pas une boule de cristal, même si on aimerait bien.
Alors, dans l'actualité récente, on a vu effectivement le dossier Danone. On pourrait dire Danone qui, il y a quelques mois, dit aux investisseurs, parle de se réinventer, Danone qui devient une entreprise à mission, et puis Danone qui licencie, et puis bon, on a vu la démission du, par le conseil d'administration, en tout cas la fin pour Emmanuel Faber, le PDG. Est-ce que là, ces séquences qui se sont déroulées les unes après les autres, il y avait des alertes pour l'investisseur LG?
Tout à fait. Alors, typiquement, Danone, c'est un bon exemple. C'est une entreprise qui avait beaucoup d'ambition d'un point de vue environnemental et social, et c'est très important. Ils sont dans un secteur, l'agroalimentaire, qui est en tension sur un certain nombre de problématiques environnementales, sociales, de santé, de biodiversité, de changement climatique. Et donc, c'est important et c'est même primordial que des groupes comme ça prennent à bras le corps ces enjeux. Et Danone l'a très bien fait avec le fait d'être transformé en entreprise à mission. Mais chez Danone, il y avait des enjeux de contre-pouvoir et des problèmes sur le terrain des contre-pouvoirs qui étaient très prégnants. On l'a dit, il y avait le cumul des fonctions de président et directeur général par M. Faber. Il y avait au sein du conseil du comité exécutif quand même un manque d'écoute, de travail coopératif entre Emmanuel Faber et les autres membres du comité exécutif. On a vu un certain nombre de départs ces derniers mois, dont celui de sa CFO, Cécile Capagny. Et au sein du Conseil, on n'avait quand même pas suffisamment de contre-pouvoirs. Il y a des anciens dirigeants, il y a M. Ribou, il y a aussi beaucoup de parties prenantes de l'entreprise, des banquiers, des avocats. Enfin, ce n'était pas vraiment un bon exemple de contre-pouvoir. Et qui dit entreprise à mission, dit aussi renforcement des contre-pouvoirs, parce que dit élection d'un comité de mission qui est là pour challenger la stratégie. Et donc, mon sentiment, c'est qu'ils ont eu une très belle vision de durabilité du groupe, mais qu'ils n'ont pas appliqué les changements de gouvernance qui étaient nécessaires depuis de nombreuses années pour vraiment être alignés et que cette gouvernance-là, elle soit vraiment présente pour challenger cette stratégie et pas uniquement challenger les aspects extra-financiers. Il faut trouver cet équilibre et comme je le disais, c'est le rôle des contre-pouvoirs de trouver cet équilibre entre financiers et extra-financiers. Et je pense que s'ils étaient allés au bout de la démarche, le passage en entreprise à mission aurait dû s'accompagner d'un renforcement des contre-pouvoirs, ce qui n'a malheureusement pas été le cas.
Merci beaucoup, Colline Pavot, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce sujet de gouvernance des entreprises.